Initié par Écolo, Regard Sensible est un espace de création offert à des artistes. Objectif, interpeller et nous enrichir d'un regard artistique sur le thème des transitions écologiques. Les pop-up, ces espaces éphémères, présentent ici l'évolution des œuvres, toutes réalisées en Wallonie. Ces moments offrent au public un regard sur le processus de création des artistes et ouvrent la discussion sur les thématiques abordées. Le 12 février 2023, la pop-up se déroulait à Tournai. Et c'est la députée fédérale Marie-Coline Leroy qui anime ce pop-up avec les artistes Axel Mine et Salomé Corvalan.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très très contente qu'on puisse vous accueillir ici. En fait, on va vivre une petite expérience insolite, une expérience intimiste, comme on aime si bien les vivre chez Écolo, puisqu'il y a un an, Écolo a eu l'idée de pouvoir proposer à des artistes de faire une année de création autour des transitions écologiques, de pouvoir prendre du temps pour penser ces questions-là, ces questions qui nous animent toutes et tous. Et l'objectif, c'était de partir d'une page blanche, d'avoir toute liberté de création, parce que vous savez que au plus la création s'invite dans le monde politique, au plus la culture s'invite dans le politique, au plus elle nous anime, elle nous bouscule, et c'est ce que nous voulions chez Écolo, pouvoir être un peu bousculés, pouvoir sortir des sentiers battus. Et en attendant, on avait envie aussi de pouvoir donner un petit aperçu, de faire des pop-up, un peu de teasing. Et c'est pour ça qu'on a décentralisé ces moments-là. Il y en a eu un à Liège la semaine dernière. On est ici aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera Charleroi. Et ensuite, encore la semaine suivante, à Namur. Et ce sont à chaque fois un des artistes du projet qui viennent présenter ce qu'ils font. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment s'est fait le déroulé du projet. Je pense que j'ai tout dit. Je vais vous laisser donc en compagnie d'Axel et Salomé. Et à tout à l'heure.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plus d'un an que Salomé et moi travaillons en collaboration sur un projet qui s'appelle Les Murs Vivants. Et on n'avait pas envie de dévoiler grand-chose finalement de ce qui va être montré à la vallée et garder vraiment le suspense le plus intense jusqu'au bout. Mais par contre, on trouvait ça intéressant d'essayer de capturer en fait l'essence de notre processus artistique d'une bonne année à travers 5 balises et 5 mots-clés qui vont nous permettre en fait de décrire les différentes thématiques qui nous ont traversées, les questionnements qui ont émergé, les techniques qu'on a éprouvées. Donc à travers 5 balises et 5 thématiques, on va pouvoir explorer ce processus artistique. Sur chaque balise est aussi disposé des objets. Enfin, c'est un peu des petites empreintes en fait, des différentes choses qu'on a explorées pendant l'année qui s'est écoulée. Ça va du très personnel et privé au très politique. Voilà, on a vraiment tout le spectre qui sera exploré. Voilà, l'idée, c'est qu'à la fois, on soit dans quelque chose un peu plus linéaire qui vous permette de comprendre le processus artistique et de création, mais qu'aussi, on se laisse un peu de mystère et qu'on puisse être dans quelque chose d'un peu plus organique dans la discussion. Et pour commencer, en fait, je pense que pour donner le tempo, je vais lire un extrait de ma candidature que j'ai remis lors de l'appel à projet. Donc ça a été rédigé en fin 2021 et ça donne, je pense, un peu une idée de qu'est-ce que je voulais amener dans ce projet et de l'état d'esprit en fait dans lequel ce projet est né. Nous sommes en 2020. Notre pays, comme le reste du monde, se confine plusieurs semaines durant sans réellement savoir quand et comment ces situations surréalistes évoluera. Je m'autorise une promenade quotidienne dans mon quartier Ixellois, l'occasion de sortir de mes 45 mètres carrés et de respirer à travers mon masque de tissu l'air frais laissé à disposition par mon voisinage bien calfeutré chez lui. Bien que cette déambulation journalière offre une sorte d'échappatoire à mes angoisses domestiques, elle devient aussi rapidement stérile, répétitive, anxiogène. Elle me rappelle à quel point nous sommes, effectivement, repliés sur nous-mêmes, resserrés dans nos sphères privées, coupés de tout lien humain. Elle me fait aussi prendre conscience du caractère ironique, presque illusoire, de cette toute relative liberté que je pense m'offrir. À force de tourner en rond lors de mes promenades, je reprends une vieille habitude sans que celle-ci n'éveille mes soupçons, celle d'archiver les mots de la ville. Que ce soit le reste d'une affiche collée clandestinement, un panneau égratigné par la météo, un graffiti laissé dans l'empressement, je photographie et sauvegarde dans la mémoire de mon téléphone ces mots, ces morceaux de phrases et de slogans laissés par d'autres avant moi. Je les choisis pour ce qu'ils racontent, pour l'incongruité de leur placement, parfois pour tout cela à la fois. Je les ajoute à ma collection numérique débutée arbitrairement il y a quelques smartphones déjà, et remarquant un enchaînement de photos aléatoires mais opportuns sur l'écran de mon téléphone, me prend l'envie de jouer. Je commence donc à articuler les images les unes avec les autres. Je les assemble, je les renomme pour qu'elles se juxtaposent et prennent du sens. Je compose des patchworks d'images numériques qui deviennent des poèmes courts et incisifs, témoins d'une ville en constant mouvement malgré son squelette bétonné et ses voies de goudron. Je décide de publier ces poèmes sur Instagram au fur et à mesure qu'ils prennent forme, sans contrainte de production ni de temps. Je me plais à compter sur la sérendipité ainsi que sur un processus de création organique et génératif. Certaines personnes répondent et me disent reconnaître où a été prise telle ou telle photo. Nous échangeons sur les détails plus si insignifiants de la ville. Nous créons du lien. Finalement, je comprends que m'emparer de symboles égrenés par d'autres m'ouvre la voie vers une sorte de réconciliation poétique avec cet environnement urbain que je ne parcourais plus que de manière automatique, mais aussi avec la notion d'une communauté d'anonymes qui communique par le fil des mots. Et c'est là qu'entre en jeu cette petite pile d'images qui est issue de la collection de mots que je récolte dans la ville. La collection, elle fait à peu près 600 mots, 600 messages, donc ça fait plusieurs années que je suis occupée, et avec, effectivement avec une plus forte intensité depuis 2-3 ans. Et donc ici, il y a 100 mots qui ont été un peu sortis de leur contexte pour pouvoir nous aider aujourd'hui. Comme ces mots, finalement, dans la ville, servent un peu comme des oracles. Un oracle, c'est un message qu'on reçoit, entre guillemets, du divin, et qui nous permet soit de nous aider à, on va dire, démêler une thématique intérieure, ou à nous amener un message éclair sur quelque chose qui nous préoccupe en ce moment. Et je pense que ces mots, cet aspect du collectif, sert un peu à cela quand on le prend de manière personnelle. C'est pourquoi un mot dans la rue nous intéresse ou pas, pourquoi on le voit, pourquoi aujourd'hui, pourquoi demain. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, à travers ces balises qu'on va explorer ensemble, Salomé et moi, on puisse tirer les cartes et convoquer le collectif qui n'est pas là et convoquer finalement tous ces anonymes qui servent à faire les poèmes et qu'on puisse les faire intervenir de manière très subjective et sensible dans la conversation. Salomé, est-ce que tu veux te présenter pour commencer? Parce que c'est bien, je pense, de remettre les choses dans le bon ordre.
Tout à fait. Donc moi, je suis Salomé Corvalan et je suis designer textile. Donc à la base, moi, je n'ai pas eu cette bourse. Donc c'est Axel qui, un jour, s'est adressé à moi et en me demandant de participer, en tout cas de la conseiller sur tout l'aspect technique autour du textile, parce qu'elle était intéressée par cette matière, cette matérialité pour son projet. Et donc au départ, c'était plutôt, je dirais, de l'accompagnement. Et en fait, au fur et à mesure du projet, et ça, on vous expliquera le long de cette conversation, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs, que ce soit cet intérêt pour la marche, pour comment on observe les choses dans la ville, et comment le textile est un lien intime et très présent dans notre vie. Et donc, on pourrait dire maintenant, c'est vraiment une sorte de collaboration qu'on a mis en place. Moi, j'ai une ASBL à Bruxelles qui s'appelle Mac & Transmettre et je fais à la fois de la transmission, donc des ateliers, mais aussi de la création. Et je pense que ça ressort aussi pas mal dans cette collaboration de ce pendant entre comment je transmets mon savoir et comment est-ce que je peux le partager aux gens pour créer des choses et comment moi aussi j'ai ma propre pratique parallèle.
Et donc, je t'ai contactée parce que je savais que je voulais prendre ces poèmes, leur donner une amplitude plus importante, et je savais qu'il serait question d'un rideau. Voilà, c'est la seule chose que je savais. Et en général, moi, je n'ai pas de médium très précis. Même si l'écriture est très présente dans mes travaux, en général, les médiums évoluent. J'ai fait du podcast. Et ici, je savais qu'il y avait cet élément du textile, mais je ne sais même pas coudre mes propres boutons. Donc, mais pourtant, voilà, il y a cet appel de je sais à quoi ça doit ressembler, comment je vais jusque-là. Et c'est un peu l'histoire qu'on va essayer de raconter aujourd'hui. La première balise sur laquelle on va s'arrêter s'appelle se perdre. Et la question qu'on essaye de poser à travers cette balise, c'est quelle forme donner au projet. Et donc Salomé, est-ce que tu veux bien tirer la première carte?
Ok, alors on va voir si on arrive à rebondir sur le mot, c'est un peu le jeu.
Oui.
Ok, donc on se surprend aussi toutes les deux.
C'est, bah, c'est une vraie mise en danger. Hein, ouais. J'avais dit que c'était chill, mais finalement...
Pour nous, c'est pas si chill. Ok, alors. Ouh, interdit au public.
Ok.
Ok, c'est parti.
Ben, en fait, moi, ça me fait penser à l'aspect vraiment... quelque chose que j'avais plus l'occasion d'expérimenter depuis très longtemps, ce qui est le travail dans un atelier, mm-hmm. entre guillemets, fermé au public, dans le sens où voilà, il y a vraiment cet aspect de workshop que j'étais venue chercher chez toi, mm-hmm. et ce qui nous a permis vraiment de donner de l'espace vraiment à ces déambulations, à cette errance qui, voilà, qui je pense n'était pas possible si je n'avais pas eu l'occasion de te rencontrer et mmh. d'avoir accès à des techniques très, très précises et à un savoir très technique. Donc je pense que pouvoir aussi créer dans son petit atelier à l'abri de tout le monde et ça, et se permettre cette vulnérabilité finalement était aussi très clé dans la création du projet. Mmh.
Je pense que ça me fait aussi penser et rebondir. Donc, comme Axel l'expliquait bien, on a les balises qui sont représentées ici sur cette table. Il y a les 5 balises. La première, là, c'est se perdre. Et vous pourrez venir voir. Mais sur cette balise, là, on a des allumettes brûlées. Et on a aussi des photos des premières recherches qu'on a faites. Donc, au départ, c'était vraiment l'idée d'effectivement venir à mon atelier et d'expérimenter et de voir quelle forme ça allait prendre, le projet. Et il y avait, je pense, très, très rapidement, nous, l'envie de se détacher de cet aspect de la féminité, le textile doux et souple, et quelque chose de très gentil, on pourrait dire. Et on voulait quelque chose qui soit peut-être brut, comme ce qui était dans le rapport à la ville. Et donc, on s'est mis à expérimenter vraiment vers tous les possibles, sans se laisser, sans mettre trop de limites, et jusqu'à un moment se mettre à brûler de la matière. Donc quelque chose de très violent, de très impactant, qui nous a clairement complètement perdus, parce qu'à un moment, on n'était plus du tout dans le... Je pense qu'on n'était que dans la matérialité du moment. Et là, clairement, on s'est perdu.
Vraiment. Mais en même temps, ce qu'on s'est vraiment dit aussi, c'est que... Donc il y a vraiment tous ces essais autour du brûlage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est parti de quoi ? C'est que tu m'expliquais comment reconnaître différents types de tissus. C'est qu'en brûlant, tu peux identifier si c'est du végétal, de l'animal. Et du coup, ça a un peu éveillé des choses. Et puis c'est une référence, il y avait Simon Yetch qui est une entrepreneure américaine, non, qui est suédoise mais qui maintenant vit aux États-Unis, qui avait créé en fait cette énorme table faite d'allumettes qui ont été brûlées les unes sur les autres, et donc voilà, il y a cet objet, et c'est ça qui nous a mené un peu aux premières expérimentations. Et effectivement, même si c'était très, on pensait avoir vraiment très bien cadré les choses, on s'est retrouvé quand même de manière pas très sécurisée, à brûler des tissus entiers. Et voilà, c'est là que c'est un peu arrêté en se disant bon, en fait, ça va pas du tout là, parce que même si c'est intéressant, même si l'objet est prenant, d'ailleurs, je pense que Anna avait filmé certains éléments de ça. En fait, on perdait de vue l'idée de faire du lien, parce que tout se détruit. On voit sur l'image que le tissu, finalement, se décompose, et on se retrouve avec juste du goudron, comme
ouais,
ça.
Bah, c'était du plastique aussi, ouais, donc voilà. Il y avait quelque chose, ouais.
Et donc, ça nous a permis de, finalement, je pense, en général, se perdre. On se dirait qu'on perd du temps et que voilà, ça ne sert à rien, mais se perdre permet finalement de se rappeler quelles sont les valeurs du projet, qu'est-ce qu'on veut dire. Il y a un peu ce mythe autour de l'artiste, je pense, qui a une espèce de vision et qui, voilà, ça parlera à qui ça parlera, ce qui est vrai d'une certaine manière. Mais si on veut communiquer quelque chose, ben c'est intéressant aussi de savoir ce qu'on communique et revenir à des éléments, des balises. Voilà, je pense que ça sert aussi à ça, à venir réaiguiller finalement le processus artistique et se dire, bon, là, on est peut-être parti dans une mauvaise direction, mais ça vient confirmer des éléments clés qu'on doit tenir en tête pendant la création. Mmh. Et puis c'était un peu le projet de l'été, parce que tout ça a duré pendant quelques mois, et c'était un peu les explorations. Et je pense que c'était intéressant aussi, parce que c'était vraiment les prémices de notre collaboration, et de voir comment on allait collaborer ensemble et comment ça fonctionnait. Et ce test a finalement permis de nous connaître aussi, je pense.
Oui, complètement. Oui, tout à fait. Parce qu'on ne se connaissait pas du tout avant ce projet, on s'était croisés. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps de mettre en place une collaboration, Et comme je disais, quand je me suis présentée, au départ, c'était vraiment... Moi, j'ai apporté un support technique, on pourrait dire. Et ce moment où on s'est perdu, c'était vraiment ouvrir toutes les possibilités techniques. Et d'une certaine manière, on a vraiment été jusqu'au bout du processus, hein, de la recherche, etc. Et à un moment, on s'est dit, et je pense que c'est là le battement, la transition de moi qui suis plutôt une aide technique et qui apporte un savoir-faire, où je suis rentrée vraiment dans aussi un peu la réflexion du projet, en amenant plus une discussion autour de la thématique et sur ce que Axel voulait raconter. Et donc, il y avait là, je me permets de rebondir sur la deuxième balise, qui est observée. Donc moi, j'ai fait un mémoire autour du rideau et la perméabilité entre le privé et le public dans la ville, à travers la fenêtre. Et donc, tout de suite, à un moment, en discutant avec Axel, j'ai pensé à un livre qui est « Fenêtre » de Gérard Wackmann, qui parle de cette notion du regard et de l'intime via le prisme de la fenêtre. Je lui ai dit, il faut absolument que tu le lises. Là-dedans, il va y avoir plein de balises sur lesquelles on peut rebondir pour construire le projet et qui vont nous donner aussi des réponses sur ce qu'on doit faire aussi pour que le travail soit... qu'il ait du sens et qu'il soit juste. Et ça nous a permis de recadrer complètement le projet au lieu de se perdre dans toutes ces élucubrations techniques et d'expérimentations, pour savoir vraiment vers quoi on allait se diriger. Et donc, de questionner vraiment la question du rideau. C'est quoi un rideau? Qu'est-ce qu'on veut communiquer? Toutes ces choses-là. Et je pense que...
Ouais. Oui, ça a été assez cadrant. Enfin, le premier recadrage, on va dire ça comme ça. Mais je propose du coup qu'on saute sur la deuxième balise. Et je
te pioche.
Oui.
Alors, la question qu'on s'était posée, du coup, c'est comment, qu'est-ce que le projet révèle? Qu'est-ce qu'il doit révéler? Qu'est-ce qu'on donne à voir via ce projet-là? Et donc, on va voir ce que ça nous dit.
J'ai un peu peur.
T'as peur? Ça va, on a réussi à rebondir à interdit au public. Je pense que ça devrait aller.
Ne pas utiliser avec un petit warning.
Ok. Ne pas utiliser. Alors, ne pas utiliser, tiens.
Ouais, ben, là, on va peut-être pouvoir en tirer une deuxième éventuellement, mais...
Moi, je pense que quand même, on peut rebondir là-dessus sur ce qu'on allait utiliser. Donc, au début, pour le projet, il y avait l'idée du rideau, mais il n'y avait pas trop de cadre sur est-ce qu'on reste vraiment sur un rideau. C'est une vraie typologie, le rideau. En textile, on n'utilise pas n'importe quoi pour faire un rideau. Il y a plusieurs langages, etc. Et c'était, est-ce qu'on reste proche de quelque chose qui existe, qu'on utilise dans l'usage quotidien, ou est-ce qu'on est complètement dans une pratique artistique où on ne reste pas dans ses codes? Et je pense que vraiment là, il y a eu un moment de se dire, OK, on va revenir au vrai code pour pouvoir se baser là-dessus, parce que ça parle à tout le monde. Donc, par exemple, un rideau classique, il y a les tentures qui sont souvent en velours ou en laine feutrée, qui sont là pour être de l'occultant. Donc, c'est plein d'aspects techniques. Après, il y a souvent parfois une deuxième couche, le voilage, qui permet de couper la vue, mais garder de la luminosité. Et bon, c'est plein de strates comme ça. Et donc, ça nous a permis de pouvoir rebondir en se disant, mais voilà, on va peut-être garder ces codes pour créer... la pièce, et aussi ça va donner plein d'indications sur comment fermer une pièce, la question d'intimité, tirer un voilage, ça dit je veux fermer un peu mon espace et couper la vue, mais ça veut pas dire non plus je me rends complètement opaque au monde et imperméable. Donc normalement dans la pièce finale il y aura une partie voilage et il va y avoir une partie rideau en velours qui va être là beaucoup plus occultante et beaucoup plus frontale.
Ouais, et c'est vrai que ça a aussi permis de dire, quand je rebondis sur l'idée de est-ce que le rideau doit avoir cette forme de rideau, enfin, par exemple, ici, on voit qu'il est, par exemple, très droit, et ça a permis aussi de donner la forme sur laquelle on va travailler, enfin, on travaille, qui sera donc une espèce de rotonde, et ça permet de créer un moment vraiment intime. Voilà, il y avait aussi dans cette idée de, à travers les mots, et à travers le textile, en fait, créer un miroir avec les poèmes qui ont été créés, et donc de redessiner cette tension entre l'intime et le collectif. Donc à travers les mots du collectif, on fait une expérience intime. Et ici, le rideau, il sert aussi à ça, c'est qu'on peut vraiment venir se loger à l'intérieur de l'installation, mais aussi l'observer depuis l'extérieur. Et donc il y a cette espèce d'ambivalence, de cette tension de est-ce que je suis le regardé ou le regardeur, on va dire ça comme ça, ou la regardereuse. J'aimerais bien faire de l'inclusif Et donc voilà, il y a cette posture en fait qui de détail, enfin qui miroir aussi, qui fait un miroir avec cette la récolte de mots dans l'espace public où toutes ces choses sont très très petites finalement, ce sont des détails, et puis finalement on va devoir s'approcher pour les voir, mais pour pouvoir comprendre l'ensemble du poème et pour voir tout ça, il va falloir se distancier. Et donc ce rideau, il va servir aussi à ça, à créer du mouvement pour le public et faire aussi un espèce de rappel avec cette idée de la promenade. On avait parlé aussi de ça, vu que voilà, il y a cet aspect cyclique, le rideau en forme de cercle va normalement aller inviter les gens à se déambuler autour, pas comme un rideau tout simple qui serait tout droit, mais ici voilà, il y aura cette idée de déambuler autour et de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit pas à certains endroits. On pourra même se baisser normalement, tout ne sera pas à même vue. Mais c'est très difficile de parler de quelque chose d'abstrait comme ça. Mais...
Ouais. Donc là, c'est clairement, on vous donne quelques petites pistes où ce sera révélé pendant l'exposition. Mais en tout cas, c'était comment re-amener la ville et tout ce qu'a expérimenté Axel dans ses marches et sa collecte d'images. Donc les photos que vous pourrez voir et celles qu'on tire. Donc c'est ça, c'est de la collecte d'images dans la ville, de mots qui sont laissés. Et c'est comment réinviter cette dynamique et cette expérience de la ville dans une installation en intérieur avec une œuvre qui, là, va être complètement créée toute pièce. Et donc, c'est vrai qu'il y a le cercle, il y aura plusieurs strates. Et donc, c'est vraiment un jeu interactif, en fait, d'une certaine manière. Ça doit être une expérience aussi pour le spectateur.
Oui, et c'est vrai qu'il y avait aussi cette volonté de replacer le jeu intime politique, quoi, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'espace public et ici, le rideau sert comme ça de frontière entre guillemets entre le très intime, le très privé, le très caché et le très public, le très visible. Et donc, on espère aussi que ce rideau va permettre métaphoriquement de recréer cette tension intime politique, individuelle, collectif.
Est-ce que tu veux qu'on lise les extraits?
Oui, on peut faire ça. Donc, on va lire quelques extraits de La Fenêtre, de Fenêtre, pour donner un peu aussi une lecture supplémentaire.
Je commence ? Allez, je commence. Donc, être dans le monde, face au monde, aveugle au monde, spectateur du monde, acteur du monde, las de ce monde, conquérant du monde. Autant de postures possibles, pensables, à la fenêtre, par la fenêtre. Comment chacun se lie ou ne se lie pas à ce monde où nous habitons, voilà sur quoi ouvre la fenêtre. On peut aussi fermer la fenêtre et tourner le dos au monde, bien sûr.
Et alors un deuxième extrait. Y a-t-il d'autres lieux du monde où se tisse notre lien au monde ? Y a-t-il une façon plus immédiate de nouer un rapport à ce qui nous entoure que la vue ? Un autre instrument ? Un plus puissant appareil pour aborder et s'amarrer à la réalité que les yeux, ces excellentes fenêtres de l'âme. Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus ? Parce que là, moi, je suis un peu ouf, transportée.
Je pense que, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que, et ce que j'espère, c'est que cette installation, elle va être vraiment un questionnement sur la position qu'on a à observer les choses. Parce que c'est la fenêtre, c'est notre regard aussi. C'est pas que un élément physique. Et donc c'est vraiment cette relation là à être au monde qui, je pense, est très intimiste. Et donc c'est là-dessus. Et je conseille tout le monde de lire ce livre qui est vraiment super.
Qui est un peu dur hein, quand même.
Oui, il y a des moments où c'est pas un livre qu'on lit de bout en bout d'un coup.
Et une autre chose sur laquelle je voulais insister aussi, c'est qu'en ce projet, il y a une grande volonté de faire du lien, que ce soit entre les mots, entre les gens. Enfin voilà, cette idée de réunir une communauté d'anonymes qui ne savent même pas qu'ils communiquent en fait les uns avec les autres à travers ces messages. Je pense que ce rideau, il fait aussi ce lien-là de est-ce que je m'ouvre aux autres, est-ce que je me ferme aux autres. Et c'est vrai que ça a mené, par exemple, à certaines vulnérabilités, par exemple, où pendant, je pense que c'était aussi pendant l'été que j'ai fait ça, c'est que j'ai, voilà, via les réseaux sociaux, qui ont été très actifs finalement pendant cette période-là, j'ai ouvert le projet au collectif dans le sens où j'ai créé un compte, une Dropbox, où je demandais aux gens de Parce que je suis pas la seule finalement en fait à récolter des mots dans la rue. J'ai plein de copines qui le font. Voilà, il y a plein de gens qui le font. Et j'ai demandé aux gens, tiens, si vous récoltez des mots que vous trouvez intéressants, est-ce que vous êtes OK de me les donner? Alors déjà, donner quelque chose qui ne leur appartient pas vraiment, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont dans la rue. Après, c'est intéressant aussi de se demander, tiens, est-ce que quelqu'un devient propriétaire de ce qui est déposé dans la rue? Est-ce qu'on perd en fait l'idée une fois qu'on l'a affiché sur le mur pour tout le monde et qu'on ne la signe pas? Ou est-ce que c'est un bête mot comme servez-vous, à donner, ne pas prendre? Est-ce que tout ça devient de l'art aussi? Mais donc du coup, j'ai ouvert le projet en disant, voilà, j'aimerais bien récolter d'autres mots parce que je ne suis pas partout en même temps. Il arrive aussi, par exemple, que moi, je n'ai pas le temps de... Voilà, que je vois un mot dans la rue, je me dis, ah, j'ai trop envie de le voir, mais je n'ai pas le temps, je vais revenir demain et demain, il n'est plus là. Donc, il a fallu faire des choix. Et donc, en ouvrant aussi ce projet à des gens, ça a été intéressant de voir sur quoi les gens tiquaient, qu'est-ce qui les intéressait dans leur rapport à la ville, qu'est-ce qu'eux voyaient, qu'est-ce que moi, je ne voyais pas. Et je n'ai pas donné trop de, on va dire, de consignes, parce que c'est vrai que les mots que je récoltais il y a quelques années sont plus du tout les mêmes qui m'intéressent maintenant. J'essaye d'être vraiment de plus en plus précise sur ce que j'essaye de récolter dans la rue. Et là, d'ouvrir en fait les règles du jeu à tout le monde, ça va nous permettre d'aller après en plus sur la balise numéro 3. C'était aussi une sorte de vulnérabilité, mais aussi intéressant de voir, tiens, quelles sont nos sensibilités personnelles à la rue, au quotidien, et sur quoi nos yeux collectifs se portent, et pour éventuellement les réutiliser. Il me semble que j'ai déjà réutilisé certains mots récoltés par d'autres dans des poèmes. Et donc, voilà, c'est aussi une deuxième manière, en fait, de récolter, passivement, des mots. Voilà. La valise 3, c'est jouer. Il s'agit d'empiècement de velours noir avec des essais de typographie à la colle, et des essais de broderie aussi, de couture plus que de broderie. Mais on aura l'occasion de le montrer après, ce sera plus intéressant.
Mm-hmm. En travaux.
Je pense que c'est vraiment le bon descriptif, ouais, pour ce moment-là. Très bien. Parce que ça nous a permis en fait de nous poser la question, quelles sont les règles du jeu, et c'était un moment vraiment, je veux dire, de mise en pratique très très concrète, mm-hmm, qu'on a depuis quelques mois là, depuis la fin 2022. Mm-hmm. Il se fait que dans les tout premiers essais qu'on avait fait, dans les premières récoltes de matériel, on s'était tourné vers le rideau velours, qui était vraiment cet objet très traditionnel du rideau, et que pendant longtemps, comme on était en train de tester, est-ce qu'on s'éloigne du rideau, est-ce qu'on doit sortir du rideau, on avait un peu oublié le velours, et en fait on est revenu là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en un coup, on a pris toute une série de décisions très pragmatiques et très cadrantes, finalement, sur le processus, qui nous ont permis de... après des mois d'élucubration et d'errance qui sont hyper importantes, ça nous a permis d'arriver en mode un peu bulldozer et de faire genre, voilà, maintenant, on va prendre des décisions très terre-à-terre. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on aime bien toutes les deux, c'est un moment cadré très pratiquement. Et ça nous a permis, notamment, de définir les matériaux. Je savais que je voulais inscrire un poème sur ce rideau. On ne savait pas la technique. On avait hésité avec la broderie. Oui, mais la broderie, c'est trop féminin. Et je n'ai pas envie de faire quelque chose d'un peu trop domestique. Et ce n'est pas moi. J'ai envie que ce soit... Ces poèmes sont faits d'éléments tellement minuscules. J'aimerais bien que ce détail devienne un paysage. Ça rebondit aussi sur la balise numéro 1, où en fait, tous ces éléments, cette vision, permet de faire des choix techniques très précis. Et donc, on a fait des tests à la colle, notamment, où l'idée, c'est aussi un clin d'œil aux colleuses féministes, qui viennent placarder des messages dans la rue, où il y a cette instantanéité, en fait, où en pleine nuit, elles viennent avec des grandes affiches et elles font vraiment un geste très vif et très instantané de collage. Et donc, il y avait cette idée aussi de revenir un peu dans ce truc-là, dans cette volonté, cette,
cette instantanéité.
Ouais, cette brutalité peut-être, ouais, d'application et de création dans le rideau. Donc ça, c'était un premier moment. Ça a aussi permis de choisir la typographie, qui est une Helvetica, enfin voilà, la plus simple possible, pour avoir aussi cette lettre qui devient vraiment extrêmement lisible. Parce que vous allez voir sur les images que tous les mots ont tous des typographies, c'est des écritures manuscrites, etc. Donc il y a une volonté, au fait, aussi de visibiliser, de rendre ça très clair. Et voilà, on ne peut pas louper le message. Et donc voilà, c'est une typographie caps lock, voilà, le plus carré possible, on va dire ça comme ça.
Tout à fait. Et puis, on a dû aussi un moment passer par une étape. Donc, quand on joue, c'est plein de paramètres qu'on assemble, mais à un moment, il faut qu'on se redirige vers du concret. Et le textile, le problème qu'on a en règle générale, c'est que si on veut travailler à échelle maquette, c'est très compliqué, parce que c'est très difficile de trouver son tissu à échelle maquette. Et donc, du coup, à un moment, on a dû quand même passer par une étape de maquette, qui a été, je pense, un moment super important et vraiment bien, parce qu'enfin, en fait, on a eu la visite à la vallée, c'est le lieu où aura lieu l'exposition. Je pense que ça a été un moment super important, parce que de pouvoir savoir où est-ce que la pièce va s'intégrer, ça permet aussi de savoir à quel point on peut prendre de la place ou pas, où est-ce qu'on va s'inscrire. Et je pense que ça a été vraiment un moment charnière, parce que du coup, on a pu faire une maquette du lieu où on allait être. Et donc, de savoir qu'on allait faire un truc très, très grand. Voilà, parce que ça va être très grand. Il faut s'imaginer que la première pièce de tissu sera une pièce de 8,50 m de long sur 3,50 m de haut, plus ou moins. Donc, c'est grand.
Une fois que... Voilà, c'est...
Voilà, donc, mais c'était... voilà, ce sera circulaire, c'est ça, tout à fait. Avec à l'intérieur un deuxième rideau de voilage qui pourra être activé, fermé ou ouvert. Là, on a pu mettre les balises concrètes de la quantité du coup de tissu qu'on devrait avoir.
Oui, c'est vrai.
Grand questionnement aussi parce que le tissu, sourcing, ouais. Le sourcing, ouais, c'est une grande question écologique aujourd'hui. Aller toquer à des industriels qui font un nouveau tissu pour juste une installation, est-ce que ça fait sens? Trouver un magasin aujourd'hui de tissus qui vend suffisamment de quantité aussi, c'est très compliqué. En tout cas, à Bruxelles, c'est très compliqué parce que c'est souvent ils récupèrent des fins de stock. Donc, est-ce qu'on peut travailler avec ça? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de matière? Donc, il y a eu tous ces questionnements-là qui ont beaucoup aussi cadré le projet. Et là, on a pu aller toquer à la porte de la Souplethèque, qui est un super projet à Bruxelles, de ressourcerie, en fait, textile, de matériaux souples. Et eux, ils vont toquer partout pour récupérer tous les fins de stock, les fins de projet, etc. Et eux, ils bossent avec une boîte qui s'appelle Epigone. C'est un peu les rois de l'installation du rideau en Belgique. Ils sont géniaux. C'est caverne d'Ali Baba quand on est dans le textile. C'est paradis, quoi. Mais vous voyez, enfin, voilà, ces grands rideaux-là qui sont derrière nous, c'est énormément de tissus, ça. Par exemple, dans le théâtre, quand ils changent de pièces, etc., et tout, ben, ils vont où, ces tissus-là, quoi. Et donc, il y a eu un peu cette idée de se dire, ben voilà, alors nous, on va travailler avec de la récupération. Parce que c'est hors de question de venir réutiliser un tissu neuf pour ce projet qui n'a pas sens, quoi. Donc, on a toqué à la Souplethèque.
Et on a trouvé tout ce qu'il fallait.
Donc, on a eu beaucoup de chance. Il y avait plein de velours. Mais alors, il n'y avait pas des rouleaux de velours. Il y avait plein de morceaux de velours. Mais on s'est dit, pas grave, trop chouette, on nous donne un nouveau challenge, on va devoir faire avec ça. Et donc, on a pris tout le velours qui leur restait. Mais vraiment, on a tout fouillé. Je pense qu'on leur a demandé, ils sont allés chercher derrière. Et vraiment, ils nous ont tout donné. Heureusement, on s'est dit, OK, ben voilà, on va partir sur une unité colorimétrique. Donc, ce sera un rideau de velours noir. Noir et gris.
Oui, en fait, voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que tous ces velours viennent de stocks différents et donc ils sont tous noirs, mais avec des variations. C'est pas tous les mêmes velours. Mm-hmm. Et je crois qu'il nous manque un mètre carré de
pièces. Oui, c'est ça.
Et donc, c'était quand même assez incroyable pour nous de se rendre compte qu'il y avait exactement ce qu'il nous fallait et que, voilà, l'achat. Parce que ce qui était aussi important pour moi dans le projet, c'était de. Voilà, dans cette idée de transition écologique, de ce questionnement aussi de recyclage, de pas effectivement acheter pour acheter et de aussi mobiliser les ressources locales. Et donc voilà, ça c'est aussi intéressant. Les premiers empiècements aussi sont assez intéressants finalement, parce qu'il y a du coup beaucoup de matérialité qui... Enfin, la première chose sur laquelle je voulais aller insister, c'est qu'au début, moi j'étais arrivée vers Salomé en disant « j'ai envie de couleurs ». Et puis, je veux quelque chose de très presque criard. Et puis, en fait, quand on s'est retrouvés face à ce velours noir, c'est fait bon. Mais en fait, finalement, ça fait du sens et ça vient ramener. Voilà, finalement, bah voilà, en fait, le velours noir, c'est un échantillon de ces, qu'il y a sur la table, c'est un échantillon de ce qui sera sur l'installation. Mm-hmm. Oui, oui, vas-y. Et il se déplie et vous pouvez manipuler, il n'y a pas de souci.
Et il y a les premiers tests de lettrage avec de la colle à tapisser. En revenant sur cette idée de jouer, des codes qu'on nous donne, etc., là, il y avait aussi, ok, ben voilà, maintenant on a plein d'empiècements de morceaux de velours. Comment est-ce qu'on fait pour créer une énorme surface ? Comment est-ce qu'on fait aussi pour être efficace ? Parce que là, voilà, on n'est pas non plus...
On est deux.
voilà, exactement. Y a des complexités techniques. Moi, je ne suis pas non plus couturière. Hein, je suis designer textile. Je sais coudre, mais voilà, il y avait plein d'aspects. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un matériau qui est quand même fini, une pièce qui est esthétiquement belle, mais qui... Enfin, voilà, on devait jouer là-dedans. Et je pense que c'est quand même là un moment où on s'est dit qu'il fallait qu'on soit simple, efficace.
Économie de moyens
et de
techniques.
Économie de moyens, voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'au début, on n'était pas tant dans cette philosophie. Et là, c'est vraiment, je pense, c'est un moment où ça a basculé sur ce rapport-là. Comment est-ce qu'on devient extrêmement méthodique dans nos manières de travailler ? Le jeu cadré, quoi. Genre, voilà, on a les belles règles du jeu qui se sont installées.
Oui, enfin, elles sont nécessaires pour savoir ce qu'on fait.
C'est ça, exactement.
Et pour, parce que du coup, dans cette idée de jeu, ben, et ce qui a permis aussi de cadrer pas mal les choses, c'est que je me suis enfin décidée sur un poème, sur le poème qui allait être dévoilé. Alors, je ne vais pas le lire ce soir, ce sera... Voilà. Mais par contre, je vais... Parce que je pense que c'est un peu cryptique aussi de parler de poème et de ne pas savoir à quoi il ressemble. Et donc, je vais en lire quelques-uns. Voilà, ils ont été créés entre 2020 et aujourd'hui. Et donc tous ces poèmes sont créés à partir de messages récoltés dans l'espace public. Peut-être que quand vous jouerez avec les cartes plus tard, vous allez retrouver des mots que j'ai utilisés ici. Je n'ajoute rien. Voilà. Et donc je choisis aussi de garder les fautes d'orthographe ou les expressions. Voilà, s'il y a un message qui n'est pas... Parce que c'est aussi une question qui est intéressante, c'est à quel point je peux me permettre de corriger une faute d'orthographe de quelqu'un qui... En fait, le message est clair, mais pourquoi moi, je viendrais rajouter un S alors qu'on a très bien compris ce que voulait dire la personne avant ? C'est des questions aussi d'altération qui sont intéressantes. Et donc ici, je vais essayer de les lire. Donc, chaque ligne, c'est un mot. Ça, c'est pour quand ils sont écrits. Quand vous les lisez, c'est vraiment un message trouvé, une ligne. Vous êtes ivre, pleine with pleasure, interdit au public. D'ailleurs, on a utilisé interdit au public aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de voir que aussi un mot dans son espace veut dire quelque chose, mais une fois qu'il est sorti de son contexte, on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. Call to significant other. Time has come to disobey. Stay a little longer. On n'a qu'une nuit. Oui, les petits poèmes d'amour, on aime bien. Hein? Moi aussi, je les aime bien. On est né pour être libre. Pousser, et cette porte garde aussi votre chaleur, c'est chez une amie. Donc voilà, j'aime bien aussi, c'est gai aussi de voir le très intime se répercuter dans les poèmes. Boxing girls, garçon pute, construire un nouveau monde of fabulous decisions. Et voilà, et c'est aussi intéressant d'avoir ce jeu de langage où, j'ai pas beaucoup de mots en néerlandais, malheureusement. Et c'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais essayé d'ouvrir au collectif. C'était pour avoir plus de langues différentes dans la collection. Mais voilà, ça, c'est un peu en cours. Donc, si vous avez des mots en néerlandais, que vous êtes fort, je sais qu'on est en Wallonie ici, mais voilà, sait-on jamais. Et j'ai encore un ou deux poèmes. Donc, colère commune, en cours d'intervention, respecter le feu, SVP, merci. La femme 2 ne fonctionne pas. Save yourself, page blanche, ne plus subir. Amour, 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 kiss my genders, machine infernale under construction. Pour avoir aussi une idée de à quoi ça ressemble une fois qu'ils sont collectés et réempaquetés. Est-ce qu'on arrive déjà à assembler la balise numéro 4? Et donc là, pour assembler, donc on a parlé de ces morceaux de tissu qu'on a récoltés à la Souplothèque. Et donc, pour pouvoir imaginer comment on allait pouvoir les assembler ensemble, il a fallu repasser par cette histoire de maquette. Et donc, on s'est amusé à prendre les mesures de chacun de ces bouts de tissu et à en faire Des miniatures comme ça. Et donc on s'est retrouvés avec une vingtaine de bouts qui représentent à chaque fois à échelle 1 un morceau de tissu. Et c'est ce qui nous a permis en fait de les assembler, de commencer à jouer, à composer un puzzle et de savoir tiens ces morceaux-là vont aller ensemble, ceux-là vont fonctionner aussi en termes de matière parce qu'au début on avait un peu fait ça de manière on dit qu'on a du cadre, mais parfois on fait un peu des décisions aussi, comme ça. Et comme on expliquait que ces différents tissus ont sont tous noirs, mais ont un velours un peu différent, certains sont un peu bleutés ou quoi. En fait, les mettre les uns à côté des autres, ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc il a fallu aussi rendre à peu près la texture de chaque morceau. Et donc voilà, ça donne. Ici, on a un vrai velours noir, comme celui qui est passé là. Puis on a un velours un peu plus bleuté. Puis il y en a qui est vraiment bleu. Voilà. Donc il y a aussi eu besoin de se dire, tiens, on travaille cette maquette, mais il faut qu'elle soit aussi un petit peu réaliste sur l'objet final. Donc ça donne des petites heures passées à découper. Et c'est intéressant de reconnecter avec cet aspect de la pratique artistique qui est très... terre à terre, et on a avec des ciseaux, de la colle et avec des bouts de papier, et c'est nécessaire finalement.
C'est à l'image d'un puzzle, et après, c'est là aussi qu'on voit, c'est bien quand on avance dans les processus. En règle générale, on a toujours des moments où ça marche pas comme on voulait. C'est un peu le jeu, il faut rebondir. Comme là, on a commencé à coudre et on a des matières qui sont tellement différentes, qui se comportent pas de la même manière. Ben voilà, ça fait un plissé qui correspond pas du tout, ça va pas, et donc j'étais là, il faut qu'on recouse ça. Ça va pas du tout. Donc voilà, c'est le jeu d'essai-erreur. C'est un peu aussi comme quand tu composes tes textes. Il y a une association qu'on se dit, ça va être super. Et puis après, t'es là, ça va pas du tout. Donc ça, c'est toujours entre le jeu de l'assemblage et de la composition, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Mais qui va de plus en plus vers quelque chose de très concret. Ouais. Et c'était assez beau, on trouvait l'écho du puzzle, de l'empiècement de cette énorme pièce sur la manière aussi dont le projet il a été construit. C'est quand même de l'association de plein de choses qui sont mises ensemble et qui ont l'air identiques mais qui ne le sont pas vraiment. Donc c'est une sorte de belle métaphore. Ouais, c'est ça.
Oui. Est-ce que tu veux tirer une carte? Parce que je pense qu'on a été très vite dans celle-là, mais est-ce que tu veux tirer une carte pour voir s'il y a quelque chose à rajouter? La première carte que je trouve, là, c'est « Mange ton ego ».
Voilà.
Il faut savoir que avant de commencer la discussion, on s'est dit on va se tirer une carte pour nous, pour avoir un peu une idée de à quoi va ressembler, à quelle énergie on porte ce moment. Et la carte que j'ai tirée, c'était So much anger built inside, donc tellement de colère construite en moi. Et c'est celle qu'on vient de repiocher. Que ça, enfin. C'est justement peut-être de la canalisation, parce que je pense que moi, ce projet, il est né pas dans la colère, mais en tout cas dans la frustration, enfin, comme je l'expliquais dans la genèse et dans la description du projet. Et je pense que c'est intéressant finalement d'avoir des preuves très concrètes, un outlet très concret pour canaliser des messages, des choses très enfouies comme ça. Et je pense que c'est un peu... c'est un peu la boucle est bouclée, vu que l'idée, c'est que dans ces mots qu'on récolte dans l'espace public, ils viennent chipoter quelque chose chez nous. On les voit parce qu'aujourd'hui, on a l'œil ouvert sur ça et demain, on ne verrait pas ce message-là. Je me souviens, il y a un mot vraiment... c'est Square Marie-Louise, un truc sur le capitalisme que je n'ai pas récolté et je m'en veux encore. Voilà. 6 mois après, je repense à ce mot et je suis obsédée et je m'en veux un peu de pas, d'avoir fait ce choix de ne pas sortir du tram et tout ça. Et donc, je trouve ça des fois aussi, faut régler ces petites frustrations dans le projet et dans le processus artistique et se dire, y a des batailles qu'on doit abandonner. Voilà, c'était une petite digression gratuite.
On ne peut pas tout faire, quoi.
Voilà, c'est ça.
D'une certaine manière, ça rebondit bien sur la dernière balise qu'on voulait aborder.
Oui, et aussi sur le fait que j'ai été vers toi, parce que, comme je disais, j'ai aucune connaissance en couture. Et en fait, oui, c'est ça. Il a fallu que tu m'aides à cadrer beaucoup de choses, en fait. Et donc, effectivement, la balise numéro 5, qui est la dernière, s'appelle « Prendre soin ». voilà, qui est un thème très cher voilà, à ma pratique artistique, et je pense qu'il est très, entre guillemets, à la mode en ce moment, certainement dans les milieux militants, et voilà. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est comment prendre soin. Mais prendre soin de son projet, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, c'est vraiment aussi une vision très 360 de ça. Est-ce qu'on tire une carte ? Et pendant ce temps-là, je vais peut-être décrire l'objet. C'est plusieurs extraits de conversations WhatsApp entre Salomé et moi. Donc, quand on parlait d'avoir vraiment ce spectre de l'intime au politique, ben ici, on est vraiment dans le très intime. Parce que ce sont tous des messages d'annulation. Donc, un projet d'un an, ça prend du temps, quoi. Ben, moi, je suis arrivée vers Salomé. À la première réunion, j'ai été très claire là-dessus. J'ai dit, voilà, moi, j'ai des problèmes de douleur chronique. Je suis une personne autiste. Je viens avec mes bagages. Et je viens avec une volonté d'envisager ma pratique artistique autrement. Et donc, j'ai besoin de certaines choses. J'ai des limites très, très claires. Et donc, ça devenait vraiment important pour moi que la personne avec qui je collabore soit mise au courant et puisse collaborer clairement avec moi sur ces sujets-là. Mais aussi, c'était important que les limites et les besoins que j'éprouve, pour moi, c'est des choses qu'on ouvre au collectif. Ça ne sert à rien que ce soit utile que pour une personne. Donc voilà, il y a cet aspect vraiment collaboratif. Et tu as tiré quelle carte ?
J'ai tiré « Ne pas déranger ».
Et c'est un hôtel à insectes.
C'est génial, j'adore. Voilà.
Peut-être qu'on lit...
Tu connais des messages ?
Ouais. Du coup.
Tu lis les miens, je lis les tiens.
Ok, alors c'est toi qui dois commencer.
C'est moi qui commence.
Si tu lis pour moi, c'est moi, c'est ouais. Ça ? Ouais, ok, d'accord.
Hello Salomé, malheureusement je ne pourrai pas venir à l'atelier aujourd'hui. Crise de migraine qui a commencé cette nuit et ça ne s'arrange pas. Désolée pour le faux bond de dernière minute, j'espère que ça ne chamboule pas trop tes plans. C'était le 22 juin 2022.
Non, 21 juin.
21 ?
21 juin 22. Et donc jeudi 21 juin 2022, 10 minutes plus tard. Hello Axel, aucun souci, repose-toi et on reprendra le travail en forme quand je rentre. Vraiment aucun souci, courage et à vite. Jeudi 18 août 2022, 7h47. Hello Axel, émoji soleil, je vais encore annuler, j'ai extrêmement mal dormi et j'ai l'impression de couver quelque chose. Je préfère me laisser l'amplitude, clin d'œil textile, de pouvoir voir mon médecin cet après-midi si besoin. Bise et vraiment désolée.
Jeudi 18 août. Hello Salomé, pas de soucis, repose-toi bien et j'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Bise, émoji, tournesol.
Vous verrez qu'on a des signatures très... voilà. Lundi... non, ça c'est moi qui ai encore annulé. Allez. Là. Deux fois de suite.
Lundi 26 septembre. Coucou Salomé, émoji tournesol. Je vais malheureusement devoir annuler pour demain. J'ai un peu trop tiré sur la corde pour ces derniers jours et j'ai besoin d'une journée de repos. Si jamais cette semaine, je peux être dispo jeudi après-midi. Sinon, la semaine prochaine, mardi, mercredi ou jeudi en après-midi également. Désolée pour le désagrément et à tout vite.
Lundi 26 septembre 2022. Aucun souci, je t'avoue que ça m'arrange. Émoji soleil. Repose-toi et on se dit mardi prochain, même heure, même endroit. Émoji clin d'œil. Voilà, donc ça c'est un peu un... Allez... un focus très intime, en fait, mais sur des réalités très concrètes, en fait, de la vie d'artiste, on va dire ça comme ça. surtout quand on a des douleurs chroniques et qu'on on n'a pas la capacité d'avoir des journées de 8 heures, et qu'il faut constamment réévaluer les choses et être flexible. Enfin, je sais, c'est assez intéressant, en fait, quand on regarde... tout ce qui est handicap et douleur chronique, où on voit ça de manière très rigide, on se dit, mais les gens, en fait, ces personnes-là, elles sont hyper rigides, etc. Mais en fait, on fait preuve d'une flexibilité qui est assez incroyable. Et en général, moi, je vois bien ça dans la communauté handi. En général, c'est les personnes qui sont les personnes qui s'adaptent le plus, finalement, à la fois en termes d'horaire, d'espace, de ce genre de choses. Et donc, voilà, c'est un peu une ode à la flexibilité. Et c'est vrai que ça a beaucoup... ponctuer notre collaboration, cette volonté de dire, en fait, c'est un projet qui est porté, qui parle très symboliquement de transition écologique, mais ça veut dire quoi ? Pour moi, tout ça, ça c'est profondément ancré dans une approche anticapitaliste, antivalidiste, et comment on porte ces valeurs au quotidien, à la fois bah, dans le processus artistique, mais aussi dans comment on prend soin de l'une et de l'autre. Il y a aussi, c'était caractérisé par une certaine lenteur dans le projet et on ne sait pas. C'est vrai qu'à aucun moment, il y a eu ce stress de « Ah, il faut fournir quelque chose par jour ». Enfin, il faut savoir qu'en fait, on ne travaille que par des après-midi de 3 heures. Au début, on avait dit « Ce sera 4 heures ». Et en fait, je crois, au bout d'une ou deux fois, moi, je suis revenue vers toi en disant « En fait, 4 heures, ce n'est pas possible, plus le trajet. Moi, je rentre et ça me flingue une journée le lendemain. Donc, est-ce qu'on peut réduire à 3 heures ?» Et donc, ça devenait aussi une manière de choisir avec soin ce sur quoi on va travailler. On savait tout à fait sur quoi on travaillait le jour J. Et il n'y a jamais eu de stress sur cette volonté de faire plus qu'on pouvait faire ou quoi, et une envie de pas, voilà, de pas se forcer non plus.
Mais je pense que c'est aussi se dire, enfin, dans la création artistique en manière générale, je pense aussi dans le travail, c'est aussi se dire qu'on doit prendre soin de ce qu'on fait, de la manière dont on le fait. Et je pense que c'est ça qui est assez beau dans cette collaboration qu'on a eue avec Axel, parce qu'Axel est donc venu vers moi en me disant justement je peux me permettre de faire ça et d'autres choses je veux pas, et donc on va devoir trouver un dialogue pour que ça fonctionne. Ce qui m'a permis à un moment de moi justement pouvoir dire aussi les moments où je pouvais pas me rendre disponible pour X raisons, et de valider le fait que c'est à prendre en compte et que c'est bien. En fait, et ça permet d'avoir un projet du coup de qualité. Et aujourd'hui, quand même, la reprise post-Covid est elle est bouleversante, elle est tellement rapide. Enfin, en fait, on est passé d'un moment où on a tous pris le temps parce qu'on nous a obligés. Et je pense que pour plein de choses, ça a été hyper révélateur. On a réalisé beaucoup de choses, ça nous a lancé sur des projets dans le milieu artistique. En tout cas, dans mon entourage, et je pense le tien aussi, beaucoup de choses sont nées du Covid. Donc ça a été exceptionnel. C'est une chance d'avoir eu ce temps. Mais aujourd'hui, maintenant, on est la tête dans le guidon, quoi. On travaille tout le temps. C'est une course effrénée. Et donc là, ça a été un projet, pour le coup, qui a été extrêmement bienveillant, quoi. Et je pourrais pas dire que je suis aussi bienveillante dans ma pratique de tous les jours, mais là, on a eu l'opportunité de le faire. Et je pense que c'est un combat politique qui est super important, parce que c'est pas nécessairement... tout le monde a droit à cette bienveillance dans le travail, de pouvoir se dire que ce matin, on se lève et qu'on n'est pas du tout capable, apte, d'être dans un projet, dans une efficacité, etc. Et en fait, oui, on ne s'est rien imposé dans l'efficacité du projet, mais finalement, c'est vraiment ça qui nous a permis de faire naître ce projet.
Oui, ouais, j'allais dire, finalement, on voit qu'on n'a pas chômé. Et c'est ça que je voulais aussi, c'est faire ce parallèle en disant, en fait, on pourrait croire que parce qu'on se voyait peut-être qu'une fois, une fois et demie par mois, en fait, il ne s'est rien passé, mais en fait... on a des propositions graphiques qui sont hyper abouties et je trouvais ça finalement intéressant, ce contre-pied. Je pense que pour revenir sur cette histoire de flexibilité, c'est vrai que le nombre de fois où on est arrivé et encore moi, je pense le mois dernier, dire en fait aujourd'hui je pourrais faire que 2 heures, est-ce qu'on peut tabler sur 2 heures, et puis en fait on est dans l'énergie du mouvement et puis on fait vraiment 3 heures, et du coup l'envisager comme genre oh en fait on a prévu un petit laps de temps mais on est capable de faire plus, ça permet aussi de le faire avec beaucoup plus de de joie, on va dire. Je pense que dans l'idée de prendre soin, il y a cette idée aussi de revenir avec recentrer la joie dans le processus artistique. Et ça me fait aussi penser que moi depuis plusieurs années le repos est forcé, mais ça a aussi été un vrai pivot de... Avant, ma technique, c'était de genre, je travaillerai et puis je me reposerai après. Et maintenant, en fait, je me repose d'abord. Si ça va pas, je dors d'abord. En fait, tout va mieux. J'ai pas honte de dire que ce matin, j'ai fait une sieste après une nuit de 10 heures. Et que c'est nécessaire et que c'est pas parce que... Voilà, moi, c'est des besoins qui sont... Voilà, si j'ai pas ça, je suis vraiment pas fonctionnelle. Mais j'invite les personnes valides à aussi prioriser le repos. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je deviens de plus en plus tatillonne dans mes collaborations. Oui, voilà. Et donc, je pense que finalement, ça, comme tu le disais, ça permet sur le long terme de prendre soin du projet. Et c'est un parallèle qui est un peu plus loin. Mais pour moi, ce projet, même s'il est... c'est clairement moi qui l'ai initié. Mais au bout d'un moment, c'est plus mon idée. Le projet devient une espèce d'entité à part entière. Et c'est un peu comme un... Alors, c'est une métaphore un petit peu... un peu bête, mais c'est comme un enfant, quoi. Et finalement, l'idée, c'est de prendre des décisions pour que cet enfant puisse s'épanouir. C'est plus à propos de moi, c'est plus... Ça revient à « mange ton ego » un peu plus tôt. C'est qu'est-ce que je peux prendre comme décision aujourd'hui qui vont faire que ce projet va être abouti et qui va être réalisé dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, te rencontrer... En fait, je pense que je savais même pas que tu allais travailler sur le rideau. Je sais même pas sûre. Mais voilà, d'avoir eu un bon feeling, de se dire « Ok, en fait, cette personne va pouvoir... m'aider, c'est aussi des questions comme ça. Il faut savoir que dans l'autisme et dans les autres neurodivergences, un des problèmes principaux, c'est les fonctions exécutives. Et donc, c'est la capacité à avoir un plan et à le mettre en marche, quoi, et dire, OK, aujourd'hui, je... Par exemple, pour que ma maison soit en ordre, aujourd'hui, je dois faire la vaisselle, je dois passer l'aspirateur, je dois faire ceci, machin. Et parfois, en fait, les fonctions exécutives sont vraiment très basses et on n'y arrive pas. Et une autre chose aussi dans la communauté handi, ce qu'on utilise beaucoup comme mot, c'est l'écuyère. Donc, c'est une théorie qui permet d'expliquer que une personne valide, pendant la journée, elle a 10 cuillères d'énergie disponibles. Donc, elle a autant de ressources pour pouvoir s'habiller, manger, aller au travail, etc. Une personne handi, en fonction d'une personne à l'autre et d'une journée à l'autre, elle va avoir peut-être 5 cuillères disponibles. Et donc, elle doit faire des choix. Elle se dit, en fait, ce matin, je ne sais pas aller travailler. Ou... Voilà. Et donc... Si on met les deux en parallèle, moins on a de cuillères disponibles, moins les fonctions exécutives sont mobilisables. Et donc, c'est vrai que, par exemple, moi, un des gros problèmes que j'ai, c'est de faire des décisions, prendre des décisions quand il y a beaucoup. Par exemple, dans un projet comme celui-ci où il y a trop de techniques et il y a plein de possibilités, en fait, moi, je deviens vite... c'est insurmontable et du coup, on stagne, on ne prend pas de décisions. Et me tourner vers Salomé et dire, en fait, voilà, moi, j'ai ce projet, je veux que ce projet existe, mais j'ai besoin qu'on me cadre. J'ai besoin que tu me fasses retourner dans un circuit fermé parce que je suis beaucoup plus efficace là-dedans. Et si moi, je me perds dans des explorations, on ne va jamais y arriver. Et ce projet, dans 6 ans, il n'existe pas. Et j'ai quand même un peu d'ambition, l'air de rien. Et donc, je voulais que ça arrive. Finalement, quelque chose que la société verrait comme un défaut ou quelque chose de... particulièrement handicapant, pour moi, c'est devenu une vraie force de se dire, en fait, je peux déléguer en fait, certains aspects, ça ne me rend pas moins propriétaire de mon projet, ça ne me rend pas moins important dans les processus de décision et de création. Et donc, ça favorise, c'est intéressant aussi, finalement, continuer à faire du lien à la fois dans ces aspects-là du projet. Quoi. Point final.
C'était les artistes Axel Moon et Salomé Corvalan, enregistrés à Tournai le 12 février 2023.